manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande! Au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Chers amis, bonjour, bienvenue dans Restons Courtois, où nous allons recevoir successivement Bruno Lafourcade, ou plutôt Bruno Marsan, et ensuite Alexandre Allégret-Pilot, ou plutôt Alexandre Allégret-Pilot. Ils sont l'un écrivain, l'autre député, et ils sont tous les deux au service du peuple d'une manière évidemment bien spécifique à leur métier, l'écriture n'étant pas la députation. Pourquoi la cause du peuple? Parce que Bruno Marsan, autrement dit Bruno Lafourcade, a écrit un livre remarquable, Underdog, aux éditions Séguier, où il raconte en parallèle la vie de deux personnes, Richard et Sylvester. Richard, donc, qui n'existe pas, et Sylvester, qui existe bien, puisque Sylvester, c'est Sylvester Stallone. Et Allégret-Pilot, lui, eh bien, quand il n'est pas en train de parler du squat, quand il n'est pas en train de parler des rave parties, il dépose des propositions de loi anti-pédocriminalité, c'est-à-dire qu'il est bien du côté du peuple et contre ceux qui, justement, pour le moment, n'ont pas fait passer ces lois et, au contraire, ont laissé se commettre quelques horreurs, plus ou moins horrifiques quand il s'agit de pédocriminalité et plus ou moins énervantes, voire absolument lamentables quand il s'agit de squats et de champs ruinés. Et ce souci du peuple, c'est quelque chose qui transparaît dans toute l'œuvre de Bruno Lafourcade. Bonjour Bruno Lafourcade.
Bonjour.
Alors, Patrice Jean nous rejoindra peut-être, mais j'ai déjà dans le studio avec nous, Romaric Sangar, qui a lu Underdog et qui l'a apprécié.
En effet, bonjour Bruno, bonjour Richard. Oui, j'ai beaucoup aimé Underdog, je pense... moi qui aime me singulariser, ce n'est pas le cas sur cette analyse. Je pense que c'est un des grands romans de la rentrée 2026 et qu'il a été salué comme tel par une bonne partie de la critique. C'est un roman extrêmement ambitieux, baroque, riche, doué d'une énergie, d'une vitalité tout à fait remarquable et qui mélange énormément de choses, autant du roman d'apprentissage, dirais-je, que du roman d'expérience, puisque c'est aussi un roman de l'expérience de la vie et de différents endroits, de différents lieux, de différentes époques, de différents âges. Tout cela est raconté avec un souffle tout à fait remarquable, et puis aussi un hommage à Sylvester Stallone. Donc c'est énormément de choses à la fois. Ça tient, ça assomme le lecteur, évidemment, toutes les métaphores, les comparaisons avec le ring de boxe ont été employées pour décrire ce merveilleux pavé que nous sommes plusieurs à avoir pris au coin du visage et du cœur. Et voilà, et donc j'ai beaucoup aimé Underdog, cher Richard, cher Bruno, que je félicite. J'avais lu beaucoup, mais d'autres livres de Bruno qui m'avaient beaucoup frappé, en l'occurrence, également d'un genre très différent, notamment Le Portement de la Croix, qui est un livre extraordinaire que Bruno Lafourcade avait fait republier, je crois, il y a quelques années, qui m'avait tout à fait bouleversé sur un thème tout à fait différent. Un livre très mystique, presque bernanosien, beaucoup plus court, très intense, ce qui prouve aussi l'étendue remarquable de son talent, qu'on remarque aussi à travers ce livre qui recouvre des tons, des ambiances et des sujets extrêmement divers et qui prouve justement, c'est un peu l'accomplissement d'un écrivain très complet qui vient rassembler comme ça tout un savoir-faire aussi assez exceptionnel.
Et ben voilà une bonne avalanche de compliments, hein, Bruno.
je vais pas faire la fine bouche. Ah.
Et alors, dans Underdog, effectivement, vous racontez en parallèle donc, l'ascension de Richard Moreira, qui est un Béarnais comme vous, a quelques expériences de vie de pauvre malheureuse. En tout cas, non pas que ces expériences soient malheureuses, mais on sent qu'il est dans la mouise. Vous aussi, vous avez mangé de la vache enragée. Et donc, en parallèle, Sylvester Stallone, que découvre Richard Moreira au ciné-club, parce que l'homme qui a monté ce ciné-club, un pion de 22 ou 23 ans, est entiché de vieux films, mais aussi du nouvel Hollywood. Et avant de programmer Taxi Driver, il projette Rocky. Et Richard Moreira se prend Rocky dans la face comme étant son alter ego cinématographique. Richard Moreira aussi a eu une enfance où on considérait qu'il était un crétin comme Stallone. Richard Moreira aussi a l'impression que la fortune a mal distribué les cartes et qu'il n'a pas le meilleur des jeux. Et en fait, ce que Rocky lui explique, c'est que si on veut, on peut, ce qui est absolument atroce comme message. On a l'impression d'être dans du développement personnel à l'américaine, mais par la grâce de Rocky, avec son visage défait, les portes crasseuses qui est encrassée de 10 ans de saleté qu'il est obligé d'ouvrir pour parler aux uns ou aux autres, avec ses combats minables, avec le froid, eh bien, il réussit quand même à tenir. Et en fait, c'est exactement l'ambition de Richard Moreira au début. Il veut tenir jusqu'au bout, pas devenir riche, pas devenir célèbre. Dire, on parle de Rocky, on ne parle pas de Sylvester Stallone. Il veut en fait être capable de tenir la distance.
Oui, et puis c'est une formule de Stallone, going the distance, tenir la distance, c'est-à-dire en boxe, arriver à être debout à la fin des 15 reprises. Et en réalité, quand il découvre Rocky, Stallone, c'est dans les années 80. Et quand il, alors que Rocky est de 76. Et quand il découvre Rocky, ça c'est une expérience personnelle, le surveillant qui lui fait découvrir ce film avec d'autres camarades de classe, il dit d'abord, écoutez, on va passer au grand film du nouvel Hollywood, Taxi Driver et tous les autres, mais avant il y a ce petit film qui est un peu médiocre, parce que vous voyez qui est Sylvester Stallone, c'est un type qui est un bas de plafond, il est idiot, mais enfin on va commencer par là, ça sera une introduction. Et au contraire, Richard y voit le meilleur film de la série, c'est-à-dire celui qui dans lequel le petit bonhomme, le white trash, quoi, c'est-à-dire le petit bonhomme blanc issu des quartiers miséreux, rêve de ses rêves inaccomplis, c'est-à-dire de ses rêves que l'on envisage sans avoir la capacité de les réaliser, mais en tout cas on continue de rêver, quoi. Et c'est un film sur à la fois le rêve inaccompli, mais aussi le savoir prendre sa chance quand elle passe. Et c'est aussi un livre sur l'admiration, c'est-à-dire à un moment, Richard admire quelqu'un, et c'est cette admiration qui fait que l'aboutissement entre le modèle se crée. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de modèle masculin, il n'a pas de modèle particulier dans la vie, mais ce personnage de fiction, plus que Stallone, c'est Rocky, ça va devenir quelqu'un qui va lui servir de héros personnel.
Alors, de héros personnel, et dans votre livre, vous vous attachez à montrer le parallèle entre ces deux vies, donc Richard Moreira, qui est un peu vous-même, et d'ailleurs, vous le dites dans un ouvrage que vous avez publié et qui est tout à fait amusant, qui s'appelle La tête baissée, qui est paru aux éditions de La Mouette de Minerve, et vous racontez pourquoi est-ce que Bruno Lafourcade, qui a déjà publié une vingtaine de livres, est devenu Bruno Marsan. Voilà. Donc vous racontez en fait à votre éditeur pour qui, si je ne m'abuse, il vous arrive de jouer les porte-plumes pour des gens célèbres qui ont envie de faire paraître leur mémoire, et à qui d'ailleurs vous prêtez parfois des aventures qu'ils n'ont pas eues parce que vous trouvez que leur vie est assez plate, et donc par exemple, oui. Vous inventez une liaison extra-conjugale à une actrice qui évidemment ne lit pas le roman de sa propre vie, et à qui le journaliste dit alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous fûtes cocu, et l'autre dit comment ça cocu, n'ayant pas lu ses propres mémoires, elle ignorait qu'elle avait été victime d'infidélité, et c'est bien normal, c'est vous-même qui l'aviez inventé pour rendre le personnage plus intéressant. Et donc on reviendra sur cette conception de la vérité qui m'a absolument enchanté, et donc là vous racontez Stallone, et vous le racontez comme dans ce livre. Donc la moitié du livre c'est Stallone, l'autre moitié c'est Richard Moreira, avec des vies parallèles, avec Richard Moreira qui bascule à un moment donné dans autre chose, où on retrouve bien le Bruno Lafourcade, c'est-à-dire celui qui observe l'époque dans tous ses travers et qui est capable, avec une loupe à peine grossissante, d'en révéler toute l'absurdité. Et vous lui dites, voilà, Stallone c'est vraiment génial, écris-moi cette histoire, me dit l'éditeur. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Je ne veux pas écrire seulement une vie de Stallone, je veux montrer comment elle a modifié celle d'un autre personnage qui s'appelle Richard Moreira et qui est un peu moi. C'est justement ce qui me bloque, il me ressemble trop. Il eut alors une intuition extraordinaire, c'est à cause de ton nom. Comment ça? Si tu es trop proche de lui, prends un pseudonyme. Si tu sais que tu publieras cette histoire sous un autre nom, tout pourrait se débloquer. Alors, c'est un truc de fou. D'abord, un éditeur donne un conseil intelligent. On est tous surpris ici qui avons publié des livres. Et ensuite, c'est un conseil qui marche. Et effectivement, vous voilà empoigné par vos personnages. Bruno Marsan réussit à écrire le livre que Bruno Lafourcade avait abandonné 30 ans auparavant. Et je n'avais jamais cru ces témoignages d'écrivains se disant hantés par leur roman. C'était pourtant mon cas. Mes personnages me réveillaient la nuit, me tueraient du lit à 2 ou 3 heures du matin. Tu nous as sortis du néant. Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Qu'allons-nous devenir? Il me tirait par la manche, alors j'écrivais. Donc, ça s'est passé comme ça, pour de vrai?
Oui, ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire que j'avais écrit le premier chapitre il y a 30 ans, et ce premier chapitre s'appelait « I was nobody », « Je n'étais personne », qui était une des phrases emblématiques de Rocky. Et j'ai raconté dans le premier chapitre la scène qui est dans le livre, la scène où Stallone se lève du lit et disant « je ne peux pas le battre, de toute façon, je vais essayer de tenir la distance ». Et puis, le deuxième chapitre, je n'arrivais pas, et puis j'ai laissé traîner 30 ans, j'ai fait autre chose. Et au bout de 30 ans, donc, la scène que vous avez racontée s'est passée exactement comme ça. Je suis rentré chez moi avec ce conseil auquel je ne croyais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je ne crois pas au blocage psychologique, ce genre de choses. Enfin, je n'y croyais pas. Et je m'y suis mis, et d'un coup, j'ai écrit le deuxième chapitre, puis le troisième, le quatrième, et en 6 mois, 8 mois exactement, voilà, ça a été fait. Entre les deux, j'ai perdu totalement le manuscrit, c'est-à-dire que j'ai ouvert l'ordinateur un lundi matin et il y avait une longue suite de zéros à la place du manuscrit. Et j'ai perdu, il y avait un virus et j'ai perdu les 150 premières pages. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai écrit sur des zéros et je suis moi-même une chaîne, longue chaîne désespérante de zéros. C'est incroyable. Et je me suis dit, ça, c'est un bon signe parce que je vais pouvoir le recommencer, améliorer, parce que ça devait être assez mauvais pour le voir disparaître. Et j'ai laissé passer une semaine et j'ai tout réécrit et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que, oui, les personnages me tiraient du lit à 3h du matin en me disant « Alors, c'est malin maintenant, fais-nous exister, quoi. On a envie de vivre nous aussi. » Et d'ailleurs, j'ai éprouvé aussi pour une des premières fois de ma vie, vous savez, c'est quand les écrivains disent « il y a des personnages qui sont plus vivants que les êtres vivants quand on les croise », et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Les personnages de Richard Moreira, de Simon Saada, qui est son mentor, je considère qu'ils sont plus vivants que la majorité des énergumènes ou des spécimens bipèdes que je croise, que je ne connais pas.
Mais c'est vrai, il leur arrive des aventures oui, totalement romanesques, mais en même temps, ils existent en tant qu'êtres humains avec une belle épaisseur psychologique, comme on dirait dans les critiques classiques oui, du roman français. Oui. Aussi, il y a cette espèce de verve qui est la vôtre, et ce goût, non pas de l'étrange, mais du précis, y compris là où on ne va pas forcément chercher la précision. Pascal Quignard adore écrire sur le sordidissime. Alors vous n'êtes pas Pascal Quignard, mais de temps en temps, vous allez chercher là où Quignard, avec des mines de précieuses ridicules, va chercher une ordure particulièrement distinguée. Vous allez fouiller à Quéronté Mauvais Beau, un peu de la boue du temps. Et ça sort. Alors, ce qui sort, c'est aussi ce Richard Moreira, presque timbré. Et ce qui sort avec lui, c'est l'amour des mots et des mots auxquels, pour commencer, il ne comprend rien. J'allais l'acheter, c'est-à-dire la chicorée, chez Monsieur Amunategui, qui affirmait systématiquement « Quand la Chine envahira la Corée, on appellera ce pays la chicorée ». Il guettait ma réaction du coin de l'œil, lissant sa moustache, se mordant la lèvre inférieure. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était qu'une plaisanterie. Je n'en avais jamais entendu, Jo n'était pas blagueuse. Décidément, je ne comprenais pas ce que voulait dire M. Amunategui. La Chine, c'est un pays. La Corée, c'est un pays. J'approuvais sans comprendre. Eh bien, ensemble, ils forment la chicorée. Il riait de bon corps et je riais avec lui parce que j'aimais le voir rire. Et en fait, ce n'est que peu après qu'il découvre les mots, que brusquement, il se rend compte qu'un mot signifie un monde. Et avec le don des mots, lui qui vivait comme un animal va brusquement vivre comme un homme, et c'est-à-dire d'une manière très précise, il va se rendre compte que tout meurt.
Oui, exactement. C'est un garçon, c'est un enfant sauvage. Il ne vit que par les sens et par l'instinct. C'est pour ça que tout le monde le prend pour un débile léger, parce qu'il n'a pas le langage articulé. C'est un souvenir tout à fait personnel. Je ne parlais pas, quoi, c'est tout. On m'aurait diagnostiqué je ne sais quoi à l'époque. Et un jour, j'ai entendu le cri d'un cochon qu'on égorgeait, puisque c'était la tradition, rurale. Et le bruit du cochon, enfin le cri, le hurlement du cochon, il faut avoir entendu ça une fois dans sa vie pour comprendre à quel point c'est effrayant. Eh bien, j'ai compris le mot tuaille, et j'ai compris que le mot mort et le mot mot, donc, a une consonne près, et c'est pareil en béarnais, c'est la même chose. Et avec la naissance du langage, à ce moment-là, j'ai commencé à parler, et la naissance du langage a été concomitante à la compréhension que tout homme est né pour mourir, voilà. Et c'est là que ça a été un déclic, avec la mort d'un animal. Et ensuite, je suis devenu un être évidemment très très intelligent, plus du tout obsédé par la sexualité. Non, j'étais plus du tout un animal sensuel. Non, j'étais un homme très très intelligent.
Très très
C'était très
intelligent.
intéressant, ça, là,
Voilà.
aussi, dans l'écriture de Bruno Lafourcade, et peut-être particulièrement dans Underdog, c'est ce lien du langage avec l'archaïque, mais avec
Oui.
l'archaïque au sens larqué, c'est-à-dire ce qu'il y a de vraiment de
Oui.
profondément dans tous les hommes et toutes les femmes, des pulsions, de la
Oui.
manière de se tenir droit, enfin ce combat en soi-même. Et il y a quelque chose de très réaliste, de rapport au réel, où le mot doit se rattacher au réel. Et je trouve que c'est intéressant, sans vouloir être pompeux, mais dans une époque qui a vachement. Qui est sous emprise idéologique, qui est sous emprise où le langage en fait est un travestissement permanent de la réalité. C'est quand même sans doute aujourd'hui, en fait, on a surtout une idiotie habillée de langue de langage, où le langage est exclusivement utilisé, pas exclusivement, mais en grande partie utilisé pour qu'on ne voit pas ce qu'on voit. Et dans ce
Oui.
sens-là, Lafourcade et Marsan utilisent le langage pour déshabiller. D'ailleurs, il y a aussi un autre moment. Que Richard n'a pas cité, mais qui est au tout début du livre, où vous dites ça quand il a sur la littérature, où en fait il s'intéresse
Oui.
aux mots qui déshabillent en fait, plutôt
Oui,
qu'aux
c'est
mots
ça. Oui.
qui enfument d'une certaine
Qui
manière,
enjolive,
qui
oui.
enjolivent.
Ouais. Et pour faire le lien avec votre remarque et celle de Richard de Sèze, j'ai toujours eu du goût pour la vulgarité, parce que la vulgarité n'est pas du tout pour moi quelque chose de. C'est simplement quelque chose de prosaïque. Et on fait notre vie avec nos pulsions, mais aussi nos désirs, des choses que normalement on doit cacher. On trouve une femme, on cache ce sein que vous ne saurez voir. Et justement, donc le professeur de français lui enseigne la poésie, elle leur fait lire à lui et à toute sa classe des poètes qu'il trouve vraiment en dehors de la réalité, parce que ce dont il parle et les jeunes filles en fleurs, ça cache des envies beaucoup plus primaires. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est de voir ce que le langage peut contenir de vérité et pas d'enjolivement.
Et d'ailleurs, vous
Je
revenez
pense.
sur, je me rappelle maintenant, sur le sonnet au trou du cul de Rimbaud et
Voilà, c'est
Verlaine, qui est
ça. Et ça,
justement, on oublie
c'est
ça, en
ça.
fait, que Rimbaud, c'est avant tout quelqu'un qui se moque de la
Bien
poésie
sûr.
en toc et qui veut une
C'est
poésie
ça.
authentique.
C'est ça. Alors, je ne dis pas que, bon, il y a des écrits romantiques qui sont très beaux. Je les apprécie pas personnellement. Le lac de Lamartine, tout ça me barbe. Mais je suppose qu'il y a des choses très belles dedans. Mais esthétiquement, je préfère le langage de la vérité crue. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai dans la peinture des caractères comme dans la peinture de la nature. À un moment, j'ai un chapitre qui commence sur le sexe féminin, parce que c'est un garçon qui aura sa première expérience sexuelle. Ça m'intéressait de voir comment je pouvais traiter ce domaine qui d'habitude est traité de façon extrêmement, soit évaporée, soit trop beau pour être vrai. Voilà. C'est un truc qui touche.
Jacques Laurent en parle très bien dans Les Bêtises, si je ne m'abuse, où lui aussi aborde la chose de manière frontale, si j'ose dire. Et bah, l'un des moments vraiment drôles du livre, parce que voilà, ce sont des histoires où on touche à l'intime, on touche à la tristesse, il y a un côté quasi métaphysique dans les malheurs que vous décrivez, ou au contraire dans les joies exaltantes du succès, mais dans tout ce que ça signifie, qui n'est pas que du bonheur. Et vous en savez là vous savez la chose beaucoup mieux que nous, Bruno Lafourcade, puisque c'est un déluge de compliments qui s'est abattu sur Underdog à juste titre. Et je suis certain que les ventes sont en train d'exploser. J'ai fait plusieurs librairies avant de trouver enfin un libraire qui a accepté de me le vendre. Voilà. Mais peut-être que l'éditeur ne l'avait tiré qu'à 500 exemplaires. Je vous passe la parole juste après, si vous voulez bien. Je voudrais lire juste la manière dont Alexandre Meunier, donc, vous inventez et qui, en fait, là, vous travestissez. C'est un roman à clé. Je ne désespère pas qu'un jour, vous nous disiez qui sont exactement tous ces gens dont vous nous parlez. Alexandre Meunier, Kerouane appela tout de suite le tripoteur de Burette, est un homme très humble, nous avait dit Madame Cuenca, là, donc, le professeur de français, avant de nous passer une émission de télévision où il était venu montrer son humilité. Il se branlait sur l'écriture, le poème, la femme. Même en parlant, il écrivait avec des lettres majuscules. Souvent, il parlait de sa maman, qu'il aimait beaucoup. L'âme de Meunier, en général, était pleine d'amour. « Tu es ce qui éveille en moi le sentiment d'amour. Puisque tu peux l'éveiller, c'est que tu peux le combler. Puisque tu peux le combler, c'est que tu dois le combler. Tu es le complément en moi du verbe aimer, le complément d'objet direct de moi. J'aime qui, j'aime toi, tu es le complément de tout. »
Je vous arrête, c'est une vraie citation.
Je sais.
C'est, ah bon, voilà, d'accord.
De qui?
De Christian Bobin.
Voilà, très bien.
Alors, ça, c'est
bien. Christian Bobin est donc en Meunier. Et il y a d'autres, comme on croise Jean Edernalier, on croise d'autres gens. Et il y a surtout votre travail de la langue que je trouve absolument admirable, avec notamment à un moment donné, un écrivain évidemment très intelligent qui est en grande discussion avec l'attaché de presse. J'ai installé l'appareil où il posa un vinyle. Vous pouvez aller me chercher des camels sans filtre, donc parce que évidemment Richard Moreira pour le moment est un factotum, un grouillot, quelqu'un qu'on envoie à droite, à gauche. À un moment donné, il connaîtra sa première épiphanie lorsqu'il refuse d'aller chercher en hélicoptère le doudou de la chienne de la princesse qui habite l'hôtel de luxe dans lequel il est lui-même employé. Et voilà. Et
expérience personnelle est tout à fait vraie. Voilà. D'ailleurs, toute la moitié du livre est vraie. C'est-à-dire Jean Dernalier, Philippe Solers, le passage avec l'attaché de presse, c'est Philippe Solers.
Voilà. Vous pouvez aller me chercher les camel feed. La jeune femme écoutait, quand je suis revenu, l'écrivain, et l'écrivain écoutait le disque. « Voilà, disait-il en souriant, le regard en dessous. C'est l'ouverture, un début assez solennel. Tila ! Voilà, calme, la sérénité apparente. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, l'électricité. » Et en s'ébrouant, comme mimant une petite crise d'épilepsie. « Électrique, magnifique ! Tout, 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 djou ! Lam, lam, ni ! Ah oui !» Il commença à battre la mesure, l'index et le pouce figurant un O. « Tap, 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 tchac !» Il leva en l'air. « Titi !» Il donna des coups de fouet dans le vide, les sourcils froncés. Tam, tam, ti, tam, tam. Vous voyez? Tam, tim, tam, vram, boum. Alors là, le rideau se lève et vous entendez un gros gnou, vrib, boum, boum, boum. Ouh! Et alors le type court. Ah! Il finit de se tenir la poitrine. Voilà, merveilleux. Vous entrez tout de suite dans les entrailles du drame. Voilà. Et donc, il est en train de d'écrire une pièce de Vivaldi, ce qui a évidemment échappé à peu près. C'est la flûte enchantée.
C'est la flûte enchantée. Voilà.
Je me rends compte que je n'avais jamais entendu la flûte enchantée avant vous, dit la jeune femme. Merci infiniment, Philippe.
Et voilà, ça c'est une scène tout à fait auquel j'ai assisté. J'étais chercher des cigarettes à Philippe Solers et j'ai assisté à ce spectacle incroyable, c'est-à-dire qu'il jouait le concert à sa façon. Et je me suis dit, c'est ça un écrivain. Je venais juste de voir Jean Dernalier qui me demandait des œufs sur le plat à 7h du matin, une vodka orange et un rail de coke. Et je me disais, c'est ça des écrivains. D'accord, j'avais pas compris. Alors moi, j'en étais resté à Jack London. J'ai dit, non, c'est pas ça, en fait. C'est les écrivains parisiens, ça.
Et donc, vous baignez en plein Paris et du coup, vous fréquentez les socialistes, ou plutôt, vous fréquentez le socialisme. Il le disait en parlant du socialisme le jour où l'on annonça au Barnabus, donc le faux grand hôtel, mais donc qui visiblement est assez vrai, dont vous parlez. Il annonça au Barnabus une délégation de gauche emmenée par Mitterrand qui commençait son second septennat, et avec lui une dizaine de ministres, dont Jack Lang. Les cuivres, les escaliers, l'argenterie, tout devait rutiler. J'avais moi-même passé les couverts au blanc de Meudon, champouiné les tapis et astiqué les rampes. Cigaud nous avait fait boulonner comme des damnés jusqu'à des heures impossibles pour que des bourgeois de gauche puissent sereinement s'inquiéter de la classe ouvrière.
Évidemment, ils ne sont pas venus. C'est-à-dire que on avait briqué tout ça comme des fous. Je me rappelle, ça avait duré une semaine pour que tout soit parfait. Et ils ont les plats, ils ne sont pas venus, les plats, je me rappelle de la purée aux truffes, et il y avait du foie gras, il y avait toutes sortes de choses. On les a jetés sous les yeux des vigiles, des gardes du corps, noués dans des sacs en plastique qu'ils vérifiaient. On les a jetés à la poubelle pour ne pas qu'on les prenne, quoi, si vous voulez. Et là, ça a été ma première expérience avec la politique de gauche.
Et du coup, voilà, depuis, vous êtes résolument apolitique, si j'ose dire.
Je suis anarchisant de tendance Groucho-Marx. Quoi. Oui. C'est à peu près ça.
Voilà, cher Abouy.
Peut déconcerter les éditeurs de Radio Courtoisie. Cher Bruno Marsan, Bruno Foucault, il y a dans la tête baissée que Richard de Sèze a pu me transmettre, au début une citation de William Riley Burnett, qui n'est pas forcément l'auteur américain le plus lu, le plus édité, le plus connu en France, et qui pourtant est décisif. D'ailleurs, il a été réédité en collection Quattro, qui a notamment lancé le genre du roman de voyou, du roman de brigand. On pense à Little César, on pense à... roman sur le personnel politique véreux américain King Cole. Enfin, bon, on comprend en vous écoutant et en vous lisant qu'il y a quand même une veine littéraire américaine. Les écrivains dont vous parlez, ou plutôt le profil littéraire type dont vous parlez, n'est pas celui qui sort de Normal Sup ou effectivement de la mondanité ou alors d'un lieu de formation, comment dire, plutôt confortable. Vous dites effectivement un personnage qui a fait tous les petits boulots, qui a été ferrailleur, qui a été garagiste, qui rencontre des gens de rien, des édentés, etc. Est-ce que finalement, par rapport au portrait que vous faites de la littérature française des années 80, une littérature rentière, une littérature protégée par le prix unique du livre, une littérature subventionnée, une littérature mondaine, et par rapport à ce détour américain que fait votre personnage, que vous faites vous, que vous évoquez d'ailleurs implicitement par la narration ou encore par les citations, est-ce que finalement la littérature américaine au XXe siècle n'a pas mieux réussi à restituer ce que vous expliquez en début d'intervention, un diamant brut de réalité, la réalité telle qu'elle est par les mots. On pourra avoir effectivement cette discussion, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement ce côté brutal de la vie de l'homme qui apparaît davantage de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici?
Certainement la littérature américaine de la seconde moitié du XXe siècle.
Merci, oui.
Voilà, oui, ça, et que la France a en partie perdu. D'ailleurs, j'insiste aussi sur un point. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de grands écrivains français, parisiennes ou parisiens. On peut très bien faire une œuvre à partir de la rue du Bac et du quai des Grands Augustins. Enfin, c'est pas du tout un problème. Je trouve qu'il y a une domination de ce genre de littérature. Or, ça manque de vie, si vous voulez. C'est lorsque vous êtes totalement cerné par ce genre de livre, vous avez l'impression que c'est une littérature mort-née. C'est une littérature qui se prend encore en 1850, si vous voulez. Alors qu'il y a un esprit conquérant, un esprit d'aventure qu'on reproche souvent aux Américains, mais qui en littérature est quelque chose de très porteur, de très novateur. Enfin, peut-être pas de novateur sur le plan esthétique, mais quelque chose qui vous fait tourner les pages, c'est tout. On a envie de savoir que devient Jack London, que devient Herman Melville dans son Ismaël, voilà.
Alors, c'est vrai que Jack London, avec le personnage de Bellew la fumée, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à avaler des histoires d'Alaska, alors que peu de romans régionalistes nous ont donné le même frisson. voilà.
Parce que c'est vrai qu'il y a à la fois le picaresque français, dont il y a aujourd'hui plusieurs occurrences. On pourrait parler effectivement d'Olivier Molin, du roman de la tribulation, de Jacques Perret.
Ouais, ouais.
Et il y a aussi effectivement ce côté diamant brut d'Amérique. Bon, alors on va faire du name dropping, effectivement. Mais on a quand même ces Américains, dont j'imagine vous êtes un grand lecteur, qui ont restitué ce que l'homme avait de plus brutal, puisque c'est l'homme qui arrive dans une société qui n'est pas sophistiqué, qui n'a pas toutes les pesanteurs des façons, qui n'a pas toute la pesanteur de l'histoire, et qui donc peut exprimer ce qu'il y a d'essentiel en l'homme, c'est-à-dire pas forcément ce qu'il y a de plus beau et de plus moral. Et peut-être que votre roman, ça peut expliquer aussi l'intérêt du public, l'intérêt des critiques, raconte ce basculement, finalement, raconte ce basculement littéraire.
Oui. Et j'apporte une nuance tout de même, c'est parce que n'a pas connu Richard Moreira, mon héros, c'est que j'ai été élevé chez les pères et j'ai appris le jansénisme. Et les écrivains qui m'ont, quand j'étais adolescent, vraiment marqué, c'était Pascal et c'était les messieurs de Port-Royal, si vous voulez. J'ai été un lecteur vraiment, vraiment acharné de tout le jansénisme. C'était pour moi le modèle à suivre de la phrase classique française impeccable.
Oui, mais c'est pas incroyable, puisque la putréfaction du péché apparaît aussi dans la littérature américaine du XXe.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça que en découvrant la littérature américaine, je me dis mais c'est la même chose. Ils le font différemment, mais finalement c'est la même chose. Les uns écrivent dans leur chambre à la lueur de la bougie, les autres en traversant l'Alaska. Ce n'est pas un problème. C'est la même chose. Voilà.
Alors, Patrice Jean vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur. Et merci d'être là pour dresser un tombeau vivant, si j'ose dire, à Bruno Lafourcade, dont on va embaumer à vif l'esprit. J'en profite pour dire, puisqu'il est 17h59 et 22 secondes, donc que Radio Courtoisie n'existe que par vos dons, et que si vous avez le plaisir de nous entendre tous parler de la cause du peuple à travers Underdog de Bruno Marsan aux éditions Séguier, c'est parce qu'il y a Aline qui est derrière la console, c'est parce que les locaux existent, c'est parce que nous payons des sommes folles pour être diffusés sur les ondes hertziennes, ou des sommes un peu moins folles pour faire en sorte d'avoir aussi une façade sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Bref, tout ça coûte des sous, n'hésitez pas, soutenez-nous, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, et ben, vous êtes quelques milliers seulement à nous donner. Lâchez les picaillons, voilà, 1 euro, 2 euros, 5 pour les plus riches d'entre vous, voilà, et même on a aussi un département pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, mais on en parlera une autre fois. Patrice Jean, vous avez lu vous aussi Underdog, et j'espère que comme nous, vous êtes sous le charme.
Oui, ça, je l'ai lu, je crois, avant même qu'il soit publié. Bruno me l'avait envoyé. D'ailleurs, une version qui a été légèrement modifiée, il me semble. Et,
il avait perdu le truc, c'est pour ça.
Perdu ?
Oui, oui. Bah, le roman a été écrasé dans les entrailles de son ordinateur.
Ah non. J'avais eu quand même une autre version. Je suis le parcours d'Underdog depuis longtemps. Et enfin, c'est presque la même, je crois qu'il y avait quelques modifications. Mais oui, enfin, c'est un roman qui m'a tout de suite, comment dire, j'ai tout de suite senti dès les premières pages, j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à quelque chose de très important dans le ton du roman, dans cette histoire du jeune Richard Moreira avec sa grand-mère. Et il y avait une sorte de précision dans l'analyse, une sorte de lyrisme aussi contenu. Enfin, oui, j'ai tout de suite. Et puis alors, ce qui a été particulier aussi, c'est de lire la vie de Sylvester Stallone. Je ne m'attendais pas à être intéressé par ça. Et en réalité, comme beaucoup de lecteurs, je crois que je me suis mis à regarder Rocky après Underdog.
Et c'est vrai que la vie de Sylvester Stallone est quelque chose de stupéfiant sous la plume inspirée de Bruno Lafourcade. Romaric Sangar.
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'ailleurs de très amusant qui fait partie du charme de ce livre. C'est ce côté de prise à revers d'un ensemble de clichés justement très franco-français. La référence au grand auteur ou au grand modèle, de lui opposer Sylvester Stallone qui passe par excellence pour de la sous-culture de beauf, quoi, et en fait de nous montrer que derrière Stallone, ce que j'ignorais moi aussi, il y a un personnage tout à fait fascinant, complexe, troublant, extrêmement, qui est tout à fait passionnant. Il y a un côté, je trouve, dans Underdog, même un côté illusion perdue, veux-je dire, mais pas dans le même sens, c'est-à-dire que on passe pas du salon de province, du petit salon de province au grand salon parisien, on passe des petits boulots voilà, les plus miséreux parfois avec les gitans ou alors dans cette hôtellerie, enfin dans cet hôtel de voilà, jusque au capitalisme crade américain new-yorkais sans scrupules, et donc on passe, il y a un passage comme ça du la vie dans sa brutalité dans un premier microcosme et puis dans un second beaucoup plus large où tout se déploie avec beaucoup plus de violence. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il y a un côté par rapport à vraiment des classiques de l'imaginaire du roman français, une espèce de manière de le prendre à rebours tout en reprenant aussi ses trames et sa structure, quoi.
Le roman de formation, dans mon esprit en tout cas, a été porté à son apogée par le 19e siècle français. Ça, c'est une chose acquise. Il a des prolongements, et je voulais m'y atteler. Mon modèle, son auteur est là, c'était La poursuite de l'idéal. Et La poursuite de l'idéal de Patrice Jean est un roman de formation, un bildungsroman, c'est-à-dire on prend le type à ses débuts et on se termine à la maturité. Ben, c'était ça qui m'a. C'est pour ça qu'il y a 50 années de formation dans Underdog. Mais aujourd'hui, en l'écrivant, je me suis rendu compte que la partie française, elle est bonne pour les petits blancs, la vie de province, les métiers un peu difficiles, et on saute la France. C'est plus la peine d'aller à Paris. Lucien de Rubempré n'irait plus à Paris. C'est terminé, ça. Ça, c'est une histoire finie. C'est New York. Ou alors, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, je ne sais pas, c'est Londres, je ne sais pas, c'est ailleurs. Mais Paris, pour moi, hein, ça, c'est un avis très personnel, pour moi, est une ville morte. D'ailleurs, c'est tout à fait autobiographique. Je suis passé d'un village, une petite ville de province à Boston. J'ai été emmené par un personnage qui s'appelle Tess dans le roman et qui s'appelait dans la réalité Liana Dale, et qui m'a emmené à San Francisco, à Boston d'abord, à San Francisco, à Los Angeles et à New York. Et on a terminé à New York. On y restait plusieurs mois. Et je ne connaissais pas Paris. Quand je suis revenu en France, j'ai découvert Paris, ça m'a fait l'effet d'être une grosse ville de province. Et je me dis, le roman de formation, ça ne passe plus par l'étape parisienne. Ça, c'était le 19e, c'était Balzac, c'était Stendhal, c'était Flaubert, mais c'est plus le roman d'aujourd'hui.
Alors, Richard Moreira devient chargé d'affaires d'un milliardaire, Monsieur Saada, et il est trimballé à droite et à gauche. Effectivement, il apprend à manier l'argent, il apprend à manier les hommes, ce qu'il y a d'admirable, c'est que c'est bien sûr un roman qui poursuit son personnage avec ce côté roman de formation que vous soulignez justement, mais ça reste aussi une réflexion de Bruno Marsan, Bruno Lafourcade, sur les mots, la société, l'époque. Et il y a à la fois des réflexions quasi jansénistes sur cette grammaire de Port-Royal. On essaie de comprendre exactement ce que c'est qu'un mot, mais aussi ce côté satirique est une autre part de votre œuvre. Du côté des mots, à un moment donné, le héros est aux États-Unis et il donne rendez-vous à un informateur qui est un détective privé qui va lui permettre d'essayer de démonter une manipulation faite contre son patron. Mais vous ne nous racontez pas du tout ça. Vous nous parlez de Pavel, notre homme de main. Curieusement, quand il dormait à l'hôtel, il se réveillait paisiblement et pleinement conscient de n'avoir pas dormi chez lui. Il était russe et quand il parlait américain, ses mots lui faisaient le même effet. Ces mots se réveillaient ailleurs que chez eux, loin du sens qu'il aurait voulu leur donner. Quand il entendait parler un natif, au contraire, il avait le sentiment que les mots savaient exactement où ils avaient dormi, près du sens que l'Américain avait voulu lui donner. Le monde en général lui provoquait le même sentiment d'étrangeté. Les événements, les êtres, les conversations, les vêtements, les objets avaient l'air de se réveiller hors de chez eux, hors du sens qu'il aurait dû avoir, comme cette mode des objets détournés. Alors, toute la journée, le sentiment ne le quittait plus de vivre dans un détournement géant, un monde usurpé qui n'avait pas l'air de savoir où il s'était réveillé. Ça, c'est vraiment ces échappées métaphysiques sublimes qui sont là parsemées. Donc, il faut. Voilà, c'est à la page 353, hein, il y en a 560.
Je suis content que vous ayez relevé ce passage parce que c'est un passage tout à fait autobiographique. C'est une expérience qui m'arrivait souvent adolescent. J'avais l'impression de vivre dans un langage qui était extérieur à moi et où le monde n'était pas celui dans lequel je vivais. Et j'ai essayé de retranscrire ça en l'attribuant à un Russe prénommé Pavel, qui lui aussi a existé. Et il faisait effectivement la manche avec une canne à pêche au bout de laquelle il y avait un gobelet pour ne pas toucher les gens parce qu'il détestait les gens. Et les cannes à pêche faisaient 3 ou 4 mètres et les gens passaient, faisaient un détour pour lui donner une pièce et il les insultait. J'avais trouvé ce type, j'avais discuté avec lui, j'avais trouvé ce type incroyable. Et il m'avait dit oui, mais n'oublie pas de me donner quand même une pièce alors que j'avais discuté une heure avec lui. Hein. C'est-à-dire que le type n'avait rien à carrer de moi, mais il était vraiment exceptionnel. Et je lui ai prêté cette impression que j'avais quand j'étais adolescent d'un langage qui était très loin de moi. On m'a expliqué après que c'était une forme de maladie mentale, mais bon, je m'en suis bien tiré.
Oui, en tout cas, à vous lire, ça ne se sent pas. Je voudrais revenir quand même sur, non pas une maladie mentale, mais un travers vous dites dans la tête baissée que vous adorez les canulars. Ça commence par l'exposé qui m'est cher, évidemment, de la plaisanterie des Poldev, ce peuple qui n'existe pas, une machinerie montée par l'Action française, entre autres, et donc qui fait signer à tous les députés la libération des Poldev, donc une espèce de mélange entre la Pologne, la Moldavie, etc. Et donc les députés français s'enflamment. Les Christiane Taubira de l'époque montent sur leurs grands chevaux et expliquent qu'il faut absolument libérer les Poldev, jusqu'à ce qu'on explique pas plus de Poldev que de beurre en broche. Et ensuite, vous nous racontez que vous avez signé des chroniques littéraires de livres qui n'avaient jamais existé, en inventant des auteurs qui existaient encore moins que les bouquins qu'ils n'avaient pas écrits, évidemment.
C'était dans un hebdomadaire, un mensuel, qui s'appelait Influence Actuelle, qui a disparu, qui est très vite disparu. Et j'avais une rubrique entière, mais il fallait que je la garnisse. Puis je ne pouvais pas lire en un mois 40 livres, donc j'inventais des livres. Et j'inventais des livres avec vraiment des mauvais livres, mais aussi d'excellents, des chefs-d'œuvre, je le disais. Et je me suis dit, bon, un jour, je vais me faire repérer, je vais me faire virer, parce que évidemment, il y a bien des gens qui vont acheter ces livres-là. Mais ce journal avait si peu de succès que personne n'a jamais, aucun lecteur n'a acheté un de mes faux livres.
Mais alors, vous avez été pertinace dans votre crime, Bruno Marsan, puisque ensuite, vous avez commencé à écrire, donc en prêt de plume, les mémoires de personnes qui existaient vraiment. Et là, et vous nous racontez aussi, benoîtement, que vous avez inventé une partie de... D'abord, vous leur avez donné beaucoup d'esprit, puisque vous leur prêtez le vôtre, et eux-mêmes, d'ailleurs, très gentiment, ont accepté, avec humilité, d'endosser toute l'intelligence dont vous les créditiez, et tout l'humour dont ils sont incapables. Mais aussi, de temps en temps, vous avez complètement galégé, et on se dit... Cette vie de Sylvester Stallone qu'on lit entre le roman d'apprentissage de Richard Moreira, cet apprentissage réel de Sylvester Stallone, mais en fait, que n'avez-vous inventé ? Est-ce que véritablement sa mère lit l'avenir dans les fesses des gens ?
Mais bien sûr, ça s'appelle la rompologie. Elle n'est pas la créatrice de cette discipline scientifique, mais elle a développé la rompologie, c'est-à-dire lire l'avenir dans le sillon interfécier, pour se moquer en fait des gens à Hollywood. C'était une femme qui était extrêmement dure, mais extrêmement drôle. Le canular chez moi est vraiment une constante parce que j'ai toujours aimé rire de la réalité d'une façon ou d'une autre. Mais j'insiste, il n'y a absolument rien d'inventé dans la vie de Stallone. La vie de Stallone est à la fois héroïque et grandiose, spectaculaire, hollywoodienne même. On pourrait en faire un film. D'ailleurs, on va en faire un film récemment. Dans quelques temps, on va sortir une vie de Rocky, en fait, la façon de la naissance de Rocky. Et à Hollywood. Et j'insiste, il n'y a pas rien inventé dans la biographie de Stallone telle que je la raconte, dans la vie de Stallone.
Patrice Jean, dans la correspondance que vous avez eue avec Bruno Lafourcade, correspondance qui a été éditée à La Mouette de Minerve, donc qui édite aussi La Tête Baissée, donc où Bruno Lafourcade explique son penchant pour le canular et pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pseudonyme de Bruno Marsan, vous avez, comme lui, été très sensible à ce que l'époque charrie de grotesque, et on vous sent très heureux l'un et l'autre de raconter avec précision des anecdotes qui sont toutes plus étonnantes les unes que les autres, de réponses aberrantes, de commentaires stupides, de conversations sans queue ni tête, de règlements abominables.
Vous voulez dire dans mes romans ou dans la correspondance ?
Dans les correspondances, mais du coup, ça se retrouve dans vos romans, tout à fait.
Oui, alors, l'époque est très, très souvent grotesque, donc elle m'inspire beaucoup, c'est... Même trop, d'une certaine manière, elle dépasse tout ce qu'on peut inventer. C'est un peu le problème. L'époque est elle-même une caricature, elle est elle-même je dis l'époque, en réalité, je me pose toujours la question, j'ai tendance à penser que toutes les époques sont un peu comme ça. Il y a forcément des idées grotesques qui s'échappent de la tête des hommes et qui finissent par... constituer des représentations saugrenues, et c'est amusant de jouer avec ça. J'aime bien, en réalité, dans les romans, j'aime bien introduire les idées, parce que je pense que pour qu'un roman soit réaliste, il faut qu'on ait les idées qui sont dans la tête des personnages, parce que dans nos vies, on rencontre que des gens qui ont des visions du monde, qui ont des idées sur la politique, des idées sur la vie, sur l'amour, etc. Et donc, en plus de la vie des personnages, il y a cet accompagnement constant, comme une base musicale de leurs idées. Et ça, je trouve ça assez amusant, oui, de l'époque est, comme on dit, très inspirante. Je crois que l'adjectif est estampillé maintenant, non ? Je ne sais pas, vous l'employez, vous, est-ce inspirant ? J'entends partout inspirant, donc
Sur Radio Courtoisie, nous ne sommes inspirés que par le Saint-Esprit, mais nous vénérons l'époque quand même et ce qu'elle nous permet d'en faire. Bruno Lafourcade.
Je pense qu'il faut la remercier cette époque, hein, en réalité. Il faut la remercier de tout ce qu'elle nous donne. Je ne sais pas si on a vécu des choses aussi bizarres dans les époques précédentes. Il y a vraiment une explosion en ce moment.
Heureuse époque qui nous valut de si beaux écrivains, Patrice Jean et Bruno Lafourcade. L'amour que vous avez pour Stallone, c'est aussi d'une certaine manière évidemment un pied de nez au milieu littéraire parisien, parce que proposer une biographie de Stallone, mais pas une biographie qui soit une hagiographie, proposer une biographie bien écrite qui témoigne de votre part d'une espèce de souci obsessionnel de la vérité, mais surtout d'un véritable... amour pour Stallone. Ça fait 20 ans, 30 ans que vous collectez la moindre de ces déclarations dans le moindre de ces entretiens télévisés.
Parmi tous les symptômes de ma folie personnelle, il y a le côté obsessionnel, et je l'ai pour Stallone, mais enfin je l'ai pour d'autres. Il se trouve que je n'ai pas voulu... j'ai pas voulu écrire contre les écrivains d'aujourd'hui, hein. J'ai jamais voulu écrire contre, Frédéric Beigbeder ou d'autres, hein. Ça, absolument pas, c'est pas du tout mon problème. Moi, j'ai voulu écrire un livre que j'aurais aimé lire, en fait, comme on dit, oui.
Mais ce qui est vrai, ce qui donne l'impression un peu peut-être du contre au niveau de l'esprit et de l'époque, qui en effet très inspirante, comme le disait Patrice Jean, c'est le ton justement très 80s j'ai pas de pièce Richard pour
non mais c'est pas grave, je l'inverserai pour toi,
de Rocky, c'est-à-dire ce côté complètement anti-géniard, on serre les dents, on encaisse, on cogne, on ne lâche pas, c'est vraiment cette morale d'attitude pure, en fait. Il y a ce qui est le contraire de la génierie générale actuelle, où tout le monde doit avoir un bobo exhibé pour exister socialement, alors que Rocky en est l'antithèse absolue. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui donne, on a l'impression que l'aventure est au Rocky, forcément. L'aventure, la diversité d'expérience, le fait de se cogner au réel est possible à partir du moment où on a cette frontalité presque, je dirais pas providentialiste, mais enfin il y a un côté tant qu'on est capable de foncer et de pas se plaindre et d'avancer et de tenir jusqu'au bout, hein, comme vous le dites à plusieurs reprises, on fera quelque chose de ce chaos, en fait. On fera quelque chose de ce chaos. Et dans ce sens-là, votre roman, même si évidemment le but n'est pas forcément d'écrire contre, se pose en tout cas dans un état d'esprit qui semble vraiment le contraire. C'est ça qui lui donne aussi d'ailleurs encore plus d'éclat, finalement, puisque l'époque est inspirante, elle est aussi désespérante, et dans une certaine mesure, l'attitude de votre personnage et de Stallone ressort encore plus dans un écrin de mollesse géniarde généralisée.
Oui. J'ai bien conscience d'ailleurs, en vous écoutant, que c'est une morale vraiment primaire. Si tu veux, tu peux. Engage-toi, fais quelque chose de ta vie, débrouille-toi. Bon, c'est assez primitif comme façon de voir les choses. Et pourtant, je pense que c'est celle de Stallone, et c'est en partie la mienne, oui. C'est pas du tout très recherché, hein. Moi, je suis pas un intellectuel, hein, et Stallone non plus, d'ailleurs. Je suis pas complexe au point d'inventer une théorie pour m'expliquer comment je dois vivre. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de théorie. J'ai pas besoin de lire des essais de développement personnel pour savoir que ce que je veux faire, au moins je vais tenter de le faire.
Voilà. Oui, vous en faites de l'art après. C'est ça qui est complexe.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça,
ouais. Donc quelque part.
Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un art qui naît de l'intelligence. Oui. Ça, j'y tiens beaucoup. Parce que je ne crois pas l'être vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment brillants. Et je me suis senti vraiment idiot à côté de gens qui étaient des esprits très, très brillants. Mais je me dis que l'art ne passe pas forcément par l'intelligence. Ça passe aussi par l'instinct, par les sens. Écoutez, on a tous des sens, on peut admirer un paysage, et ça ne passe pas par l'esprit, il n'y a pas besoin d'esprit pour ça, il y a besoin de sens.
Ça renvoie d'ailleurs à la discussion avec Patrice Jean, puisque Patrice Jean est un très beau peintre de la logorée. Vous disiez qu'effectivement, vous rencontrez des gens qui avaient un discours, un avis, une faculté d'abstraction sur, alors on pense à vos romans, Patrice Jean, sur l'éducation, sur l'éducation nationale, ou sur une espèce de surgissement, comme ça, surgissement d'un blabla, sur une petite théorie, comment maigrir, une petite théorie sur le consentement, sur la politique, etc. Et c'est vrai que la littérature française, et de ce point de vue, ça donne des réussites, hein, notamment la recherche de l'homme surnuméraire, réussite littéraire. La littérature française, depuis peut-être Flaubert, ou depuis peut-être Barthes, etc., est quand même très obsédée par le discours, très obsédée à l'idée de mettre à distance le baratin, l'intelligence, la philosophie, pour un peu égaliser tous les discours et les ridiculiser quelque part. Et certains y réussissent, certains y parviennent. Mais avec La Fourcade, on tombe dans vraiment autre chose, pour le coup. On tombe dans une littérature de l'image, on tombe dans une littérature de la scène, on tombe dans une littérature, vous dites, du sens. Quand Richard de Sèze lisait des onomatopées, c'est la première fois sur Radio Courtoisie, effectivement. Et de ce point de vue, bah, c'est assez rafraîchissant, puisque, en fait, il y a assez peu d'équivalents aujourd'hui, finalement. On a des écrivains très intelligents, et peut-être trop intelligents, justement. Or, la littérature ne naît pas forcément dans des milieux qui théorisent ou qui pensent ce qu'ils font. On a Michel Houellebecq qui a beaucoup pensé ce qu'il a fait. On a Annie Ernaux qui a beaucoup pensé ce qu'elle a fait, voyez. Et ce que vous dites, Bruno Lafourcade, c'est intéressant. C'est-à-dire que finalement, c'est une littérature d'un surgissement pur, quoi.
Ça a quand même mis 30 ans à surgir, on est d'accord. Vous défendez le sens, mais aussi vous dites que vous avez été formé à l'école du jansénisme et que vous avez lu les bons auteurs jusqu'à en faisant vos gammes.
Mais ça, c'est un truc d'écrivain, ça, de dire que c'est une intuition fondamentale et ça répond pas.
Mais Bruno Lafourcade a déjà dit à l'antenne qu'en fait, il avait bossé comme un malade pour se donner cette langue qui lui permet de tout décrire, y compris ses sensations. Excusez-moi, j'ai répondu comme si la question s'adressait à moi, mais...
Oui, non, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé non plus, hein, évidemment. Si je dis que j'ai admiré et que j'admire toujours les jansénistes, parce que j'ai voulu les copier, j'ai voulu les imiter, mais il me manquait la dimension vitale, celle qui vous fait agir dans la vie et qui vous fait écrire. C'est la même chose. C'est une énergie vitale. Je crois d'abord au vitalisme, à quelque chose qui vient de ce que l'homme a en lui, oui, d'animal qui le fait survivre, qui l'indique qu'il doit courir à un moment pour échapper au chasseur et ainsi de suite. Une fonction vitaliste.
C'est pas un roman, les gens parlent justement. Et on pense.
Il y a de gros problèmes avec le langage, oui, effectivement, dans ce roman. Et l'homme d'affaires Simon Saada a lui-même un problème avec le langage parce qu'il ne le maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que c'est un provocateur, il est capable de dire des énormités qui, moi, me font rire, mais qui choquent beaucoup de gens, d'ailleurs.
Par contre, vous faites parler les choses. Vous faites parler les bastons de poivreau, vous faites parler les clodos, vous faites parler des choses qui ne parlent pas, en fait. Et finalement, on oublie parfois que c'est ça, la littérature. C'est réussir à faire parler une plaque d'égout, c'est réussir... Et la littérature, qui est beaucoup axée sur le discours, a un peu de mal, justement, à donner la voix à des choses qui, a priori, ne parlent pas. Et aux États-Unis, c'est pour ça que il y a beaucoup de mentions, quand même, de littérature américaine dans votre livre. Des gens comme Bukowski, comme Erskine Caldwell ou quoi, ont réussi à faire parler des bastons, ont réussi à faire parler de la barbarie, justement.
Oui, je ne peux pas mieux dire, ouais.
Dans le choix de Sylvester Stallone et dans le choix de Rocky, vous mettez en scène le moment où Sylvester Stallone a 29 ans, donc un peu comme vous-même quand vous rentrez en littérature, un peu comme Richard Moreira quand il commence à sortir de la galère, le moment où Stallone va passer du statut d'acteur raté à celui de scénariste qui pond un scénario accepté. Il en a écrit des dizaines, voire des centaines auparavant. Alors, d'ailleurs, en réussissant, en étant scénariste, à être quelque chose, c'est-à-dire pas juste un acteur raté, à être un scénariste qui a pondu un scénario quand bien même il serait mauvais. Et c'est le moment où Stallone se perd lui-même. Stallone et Rocky, Stallone assiste à un match, un véritable match où Mohamed Ali a en face de lui quelqu'un qui n'est pas un excellent boxeur et qui va quand même tenir 15 rounds. Bon, Mohamed Ali finit évidemment par l'aplatir, mais en fait ce type est monté sur le ring, il a tenu la distance et ensuite Stallone lui-même va plus ou moins se perdre, il ne va plus être celui qui n'est rien ou rarement, parce que voilà, le succès l'a pris. Et donc, il y a deux œuvres différentes chez Stallone où il essaye régulièrement de n'être qu'un mauvais, qu'un perdant. Je me souviens notamment de ce film où il joue le rôle du shérif sourd d'un village qui n'est habitué que par des flics véreux et où il va essayer malgré tout de faire régner la justice au milieu de flics qu'il méprise, parce que voilà, c'est juste le shérif d'une bourgade alors qu'eux sont tous inspecteurs de la police de New York. Et cette veine-là où à chaque fois il est scénariste, il est acteur, il est producteur, même s'il n'est pas réalisateur, il devient aussi réalisateur sur d'autres films, cette veine-là, il a beaucoup de mal à la faire surgir et il a beaucoup de mal à redevenir, si j'ose dire, celui qu'il était. Alors qu'au contraire, Richard Moreira, lui, c'est un roman d'apprentissage où on n'a pas l'impression qu'il se perd. Enfin, en tout cas, quand on lit le roman, on n'a pas l'impression qu'il connaît ce moment de grâce et qu'après, happé par la fortune, il va oublier qui il est.
Et il faut voir d'où vient Stallone. C'est-à-dire qu'il s'est instruit tout seul. Il a passé un an à lire les classiques américains à la bibliothèque de New York. Il a une admiration sans borne pour Edgar Poe. Je pense qu'il serait capable d'écrire une vie d'Edgar Poe. Il a écrit un roman. Tout ça avant d'être le comédien que l'on sait. Et une fois qu'il est, donc il vit dans la misère, il finit clochard, il travaille dans le zoo de New York à nettoyer la cage du lion qui lui pisse dessus. Et ce type écrit des scénarios parce qu'il sait qu'il veut s'en sortir. Et un jour, il devient mondialement connu. C'est-à-dire qu'il ne s'appartient plus. Lui qui rêvait d'écrire des scénarios qui mettent en scène des petites gens, ce ne sont plus que des petites gens au service de films médiocres en réalité. Et il est pris dans une spirale où il ne se décide plus, on ne peut plus lui confier de rôle, où il n'est pas soit un gros bagarreur avec des gros muscles, soit un type qui vient des scénarios caricaturaux de type qui sort de nulle part et qui arrive au sommet. Et c'est le début de la fin en fait. Il y a 50 ans que c'est le début de la fin. Il a dit d'ailleurs de Rocky que c'était après Rocky, c'est la chute. Il l'a dit dès le début. Après Rocky, ce sera la chute, ce sera la fin. Et il a eu raison en partie, ouais, parce qu'il est jamais, à part Copland et deux ou trois autres films, ou Demolition Man ou ce genre de films, il n'a jamais réussi. Il s'est en quelque sorte vautré dans la facilité, l'argent et puis la nécessité de plaire aux producteurs. Le cinéma américain est un cinéma de producteurs qui ne vous laisse pas le choix. Mmh. Il a été Rocky, il a été Rambo. Quand vous avez deux héros planétaires, vous ne vous appartenez plus.
Mais alors pourquoi, puisque c'est l'Amérique des marges finalement, pourquoi est-ce qu'il incarne en France un peu la toute-puissance américaine? On se souvient de sa marionnette au Guignol de l'Info, où il est à la fois la finance, à la fois l'armée, à la fois...
C'est certainement parce qu'il a toujours été, à part de 16 à 25 ans, où il était démocrate, il était hippie en Espagne, etc., il a quand même un fort tropisme républicain. C'est-à-dire que ses amis, c'est Trump, c'est des gens comme ça. Enfin,
toujours.
Oui, c'est un républicain, il a toujours dit qu'il était républicain, il n'a pas voté Barack Obama, au moment où tout le monde était démocrate, lui, il a voté pour McCain, je crois, je ne sais plus comment l'adversaire. Ouais. C'est ça aussi qui donne à Stallone cette réputation d'être un type de droite bas du front, quoi. C'est la réputation qu'il a, voilà. Clint Eastwood aussi est un républicain. Oui. Il n'a pas la réputation d'être... on l'a traité de fasciste pendant très longtemps, mais enfin, c'est vite passé, finalement.
Parce que finalement, entre l'Amérique des marges, des petits blancs et des garagistes, etc., et les paillettes new-yorkaises, en fait, vous faites un voyage dans l'Amérique de Trump, finalement. Les deux Amériques de Trump. L'Amérique des milliardaires et l'Amérique des rednecks, en gros.
Oui, c'est ça. Sauf que Stallone a perdu le fighting spirit, quoi, l'esprit du petit blanc. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Enfin, je suppose qu'il est milliardaire, mais on peut pas dire qu'il est. Il incarne quelque chose de populaire en ayant dépassé le stade de la classe sociale d'où il vient.
Vous lui avez dressé l'ouvrage?
Non, pas du tout, non. Mais je tiens pas du tout à le rencontrer ou à le connaître. Pour moi, c'est un fantasme. Stallone, c'est un type... je veux dire, il existe... Que je le rencontre ou pas, il existe pour moi. J'ai l'impression de le connaître. Comme j'ai l'impression de connaître Simon Saada, comme j'ai l'impression de connaître Richard Moreira, je les connais tous. Et Stallone, pour moi, c'est un personnage autant que les vrais personnages du roman.
Romaric Sangar, voilà, vous faites partie de ceux qui ont lu le livre, qui l'ont apprécié, qui en avaient écrit du bien. Si vous deviez résumer vraiment ce que vous avez à retenir du livre ou de cette leçon d'écriture, puisque malgré tout, c'est vrai, il y a un changement d'écriture chez Bruno Marsan par rapport à d'autres ouvrages qu'on avait pu lire de Bruno Lafourcade, et notamment ce roman admirable, Portement
de
Croix.
Oui, c'est vrai. J'ai quelque chose de complet. Enfin, il y a le souffle, il y a la vitalité, mais qu'on trouvait aussi dans d'autres livres, mais là, de manière peut-être plus radicale. Je trouve qu'il y a aussi, c'est là où on peut faire un rapprochement avec Patrice Jean, et pour nuancer ce que disait un peu Lucien, il y a aussi un discours sur le discours ou sur la manière de se raconter des histoires. Et ce qui est assez amusant, c'est que je trouve autant chez Patrice Jean, ça va, ça peut toucher différentes dimensions, mais il y a tous ces profs, enfin, la fonction publique qui délire dans ces concepts, et on a chez Bruno Marsan, en tout cas dans Underdog, un discours libéral qui lui va dans sa folie en fait, libérale, mais enfin en même temps aussi dans sa vérité, et notamment une scène absolument exceptionnelle, mais qui a eu lieu d'ailleurs, je crois, enfin on m'a dit que ça avait lieu là, où on demande aux employés d'une boîte où il y a beaucoup de bullshit jobs de d'écrire en moins d'une minute à quoi ils servent d'entreprise, et s'ils n'y arrivent pas, ils sont automatiquement éjectés. Je crois que cette scène, c'est un moment c'est fascinant.
Je ne savais pas que cette scène avait existé, mais je l'ai inventée pour le roman. Mais
alors
ça
on m'a dit, moi je me suis esclaffé en la racontant à un ami qui m'a dit ah mais c'est ce qui s'est passé. Alors,
mais bon. Ça ne m'étonne pas, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait cohérent. S'il y a bien quelque chose auquel je tiens dans la deuxième partie du livre, c'est ce que je dis du management. Le management, c'est lorsque l'apogée du management, c'est lorsque le client devient l'employé.
Oui.
Là, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que là, on va payer des gens, comment dire, les gens vont payer un pourboire pour un service qu'ils se sont rendus
à eux-mêmes.
Et ça, c'est l'apogée de. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on y sera. C'est-à-dire que les gens se font déjà leur sandwich en choisissant des garnitures dans certaines enseignes. Et on va leur demander à la fin en cliquant sur en tapant leur code, s'ils acceptent de donner un pourboire. on n'est pas loin, je pense que c'est l'avenir. Ouais.
Patrice Jean, vous-même dans Underdog, donc il y a ce côté extrêmement vrai. Voilà, Stallone a dit tout ce qu'il dit. Stallone a fait tout ce qu'il est raconté qu'il a fait. Il y a aussi ce côté autobiographique de Bruno Marsan qui raconte au moins Richard Moreira des 30 premières années comme étant lui-même ou comme étant proche de lui-même. Vous engagez vous-même votre personnalité et vos obsessions dans tous vos romans, ou vous essayez de vous inspirer modérément de vous-même?
Alors là, j'ai eu une discussion avec Bruno là-dessus.
Récente.
Très, très récente, pour un dialogue qu'on publie sur un site littéraire. Alors la question, oui, non, moi je m'engage, effectivement, mais jamais. Pour écrire, j'ai vraiment besoin de ne pas parler de moi. Enfin, et je me sens libéré dès que je parle pas de moi. J'ai du mal à parler de moi en réalité dans les romans, parce que la question que je me pose alors, est-ce que je vais être vrai, est-ce que ça s'est réellement passé comme ça, est-ce que je me ménage trop, etc. Alors que quand je me pose pas ces questions là de la vérité par rapport à moi, je me sens libéré. Et je pense que alors c'était une controverse. Moi, effectivement, je suis un peu dans tous les personnages d'une certaine manière, à des degrés divers, évidemment. Mais je nourris des personnages d'observations que j'ai faites sur d'autres individus, comme des choses que j'ai vécues moi-même. Alors pour rebondir quand même sur ce qui a été dit tout de suite, sur le fait qu'aujourd'hui le client participe lui-même, enfin il devient un employé, ça m'a fait penser à un livre de Guy Debord, un film. C'est le film qui a un titre latin que je n'oserais réciter.
Ingerum imus nocte et consumimur igni.
Voilà, bravo, merci. Bravo. Exactement, c'est ça, qui est un palindrome. Et donc, dans ce livre, je crois, Guy Debord expliquait que les automobilistes étaient désormais obligés eux-mêmes de mettre l'essence dans leur voiture. Alors qu'auparavant, vous avez peut-être connu l'époque où il y avait quelqu'un à la station service, un pompiste qui venait et qui vous disait « Vous voulez combien ? Le plein ?» etc. Et là, Guy Debord disait « Comment on les a maltraités, les prolétaires qui vivent dans le monde capitaliste, pour qu'ils fassent eux-mêmes, en étant contents, ce qu'auparavant quelqu'un faisait pour eux. » Voilà, c'était juste pour dire qu'au fond, ce management, cette façon de procéder, date des années 70-80, je pense. L'origine est là.
Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que le libéralisme...
Pardon. Là, je suis scié parce que je ne savais pas que Guy Debord avait dit ça dans son film, mais c'est exactement ce qui a inspiré et mon personnage et moi-même pour inventer l'idée que le client doit devenir l'employé. Parce que j'ai vu des pompistes, j'ai connu la période, comme Patrice Jean, comme vous aussi, j'imagine, des pompistes qui vous servaient l'essence et qui passaient un coup de chiffon qui vérifiaient la pression des pneus pour le même prix. Or, un jour, c'est nous qui avons mis l'essence tout seul et, c'est nous qui servons d'employés, c'est-à-dire que ça supprime un emploi et ça supprime aussi un art de vivre, ça supprime quelque chose de la vie, quoi. Et c'est ça qui m'a inspiré pour inventer le client devenu l'employé. Et je ne savais pas du tout que Guy Debord l'avait dit.
Et en même temps,
j'apprends beaucoup de choses.
Guy Debord vient sans le savoir, quoi, en fait.
Ouais, exactement. Exactement.
Ce qui est fascinant, c'est que ça s'appelle le libre service. Autrement dit, on nous a vendu le fait d'être totalement asservi aux robots qui nous entourent et qui nous réclament sans cesse de pousser un bouton ou je ne sais quoi. On nous a dit, mais non, pas du tout. Ce que nous vous offrons, et vous allez payer pour ça, c'est la liberté d'avoir les mains qui sentent le diesel.
En fait, c'est le libre asservissement.
C'est le plaisir d'aller vous-même tout vous servir au vrac du supermarché. C'est le plaisir de scanner vous-même les 3 boîtes de conserve. Soyez libres, les amis, et donc faites en sorte de perdre énormément de temps et surtout de n'avoir plus personne à qui parler.
Et on en vient à le faire soi-même sans se rendre compte qu'on est un employé. Et l'expression libre-service, je la coupe à l'expression self, le self-service, etc. Alors, sers-toi toi-même, mon petit père, mais t'es quand même l'employé. C'est à nous que tu sers.
On peut conseiller d'ailleurs à nos auditeurs d'aller voir, j'ai vu votre confrontation publiée sur l'arrière-cuisine des mousquetaires, c'est cela ? Non ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, on peut conseiller à nos auditeurs.
Alors, l'arrière-cuisine des mousquetaires, c'est un site internet.
Ah.
Non, c'est une question que je pose.
C'est ça. Mais... c'est un site internet. Oui.
Voilà, et où il y a en effet, j'ai découvert ça grâce à Facebook, et je crois que c'est Bruno qui avait publié. Et bref, enfin voilà, nos auditeurs passionnés par ce début de conversation peuvent se plonger dans un débat passionnant entre Patrice Jean et Bruno Lafourcade sur le site de l'arrière-cuisine des Mousquetaires.
Et il y aura d'ailleurs une surprise bientôt à propos de cette conversation que j'ai avec Patrice. Au départ, c'est une conversation que j'avais lancée pour parler du gros volume de Patrice Jean, La fin du monde avait pourtant bien commencé. Et en fait, j'ai complètement dérivé parce que je suis incapable de m'en tenir à quelque chose. Et il y aura bientôt une surprise. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai le sens de l'hameçon là.
C'est tout à fait catchy comme nous ne devons pas dire sur Radio Courtoisie. je voudrais terminer parce que mon invité suivant va sans doute arriver. Voilà. En tout cas, les messages qu'il m'envoie régulièrement prouvent qu'il progresse lentement vers nous. Sur le moment où Richard Moreira découvre Rocky. Peu importe que plus tard j'ai aperçu Max embrassant furtivement entre deux portes Jessica, qui, je crois, me vit et en parut gênée. Ça n'avait plus d'importance. Ce que j'avais découvert dépassait désormais tout. Je ne sortis pas seulement de la salle bouleversée, j'étais un autre. Rocky, ce fut un cataclysme dans ma vie, mon chibolette. Rocky, c'était moi autant que l'autobiographie de Stallone. Les semaines suivantes, je le revis 10 fois seul dans la salle vidéo. Chaque dialogue m'allait droit au cœur. Moi aussi, j'avais des vides et je voulais les combler. J'étais ce boxeur sur le retour que l'on avait traité de débile léger, de fou, de bon à rien. Comme lui, j'avais été un humilié, je le serais encore. Mais Stallone me disait que ça ne pourrait ne plus être le cas. Il suffirait d'un rien, d'un hasard, d'un Apollo Creed pour réveiller un rêve, l'espoir d'une autre vie. Ce manuscrit restait 30 ans sous le boisseau.
Dans mon cerveau, surtout.
Ouais, et la littérature à l'estomac. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre, d'une certaine manière, votre moment Rocky ou voilà, pas du
non,
tout,
pas du
tout. Voilà.
Non, pas du tout. Non, je suis... Je me demande ce que ça peut être... Il faut avoir un succès planétaire pour se sentir un autre, en fait. Non, je n'ai pas du tout... non, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, non. Ça me fait plaisir, mais j'ai plus l'âge des émerveillements, hein, si vous voulez. pas ce genre d'émerveillement. Non. Mais je boude pas mon plaisir. Hein.
Dans la construction du roman, donc vous commencez donc il y a 30 ans à imaginer qu'il y a deux histoires en parallèle, et après, ça a été simple de continuer en maintenant ce parallélisme, ou au contraire, au fur et à mesure que...
J'ai pensé que ce serait trop schématique, mais je me suis dit, tant pis, je suis un homme schématique, je vais continuer dans le primaire. Il y a un chapitre sur Stallone, un chapitre sur Richard Moreira, et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, ben voilà, Patrick Jean a fait un livre qui s'appelle L'homme surnuméraire, dont la structure est extraordinaire, et je me suis dit, bon, je ne suis pas le Patrick Jean, je vais trouver une structure qui me convienne, mais qui n'est pas aussi sophistiquée. Voilà.
Dans L'homme surnuméraire, cette structure, Patrick Jean, c'est quelque chose qui vous a, qui a été premier dans ce que vous vouliez expliquer, ou au contraire, il y a d'abord le thème, et au revoir Romaric, merci beaucoup d'avoir été avec nous, il y a d'abord le thème et ensuite la structure qui s'est imposée, je veux dire, dans le travail d'écriture. Est-ce que le thème se développe grâce à la structure? Est-ce que la structure vous a paru servir le thème?
La structure est venue en cours d'écriture. J'ai commencé à écrire une première histoire, et cette première histoire, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir un roman dans une autre histoire? Et j'ai trouvé que l'idée était intéressante à creuser. Et donc j'ai alterné, vous savez, moi je suis assez simple aussi, hein. J'ai alterné l'écriture, je n'ai pas écrit d'abord l'histoire d'un premier personnage et ensuite l'histoire d'un deuxième personnage. Je les ai entremêlés, d'abord l'histoire du personnage qui s'appelait Serge de Chenadec et ensuite l'histoire du deuxième personnage qui s'appelle Clément. Et l'une nourrissait l'autre et je multipliais les échos entre les deux histoires assez facilement, puisque je les écrivais finalement l'une à la suite de l'autre.
Mais puisque Richard de Sèze était parti sur des considérations de composition esthétique.
Mais oui,
absolument.
J'ai tous les culots.
Et si l'on fait un peu de réception commerciale, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs Underdog, cher Bruno Marsan, Bruno Lafourcade, un peu de démagogie?
Oui, parce que Stallone, c'est une figure populaire, donc je savais très bien que j'allais attirer les foules.
Puis vous vendez du rêve aux gens.
Mais voilà, c'est ça.
Les gens passent de CAP drogué alcoolo à milliardaire.
Mais oui.
Donc vous allez forcément trouver votre public.
Voilà, mais je l'ai trouvé. Les gens croient que après avoir lu ce livre, ils vont se lever le matin pour aller conquérir l'Amérique.
Ouais.
Bien sûr.
Ouais. Donc vous vendez du rêve.
Je vends du rêve, c'est ma fonction dans la vie. Vendeur de rêve, on m'appelle.
Voilà. Alors, heureusement qu'on a lu d'autres de vos rêves, donc où on n'est pas. Voilà, où tout le monde.
J'ai d'autres rêves qui sont plus sombres. Vous avez parlé du portement de la croix, c'est pas aussi gai, quand même. Hein.
Je voulais placer cette émission dans ces deux parties avant de recevoir le député Alexandre Allégret-Pillaud sous le signe de la cause du peuple. Parce que malgré tout, ce que vous dites, c'est que Richard Moreira, à travers d'ailleurs toute cette misère que vous décrivez à la fois éducative avec cette éducation nationale un peu boiteuse, évidemment financière avec l'ensemble des petits boulots qu'il enchaîne, évidemment sociale avec cette espèce de distance entre les faux gauchistes ou plutôt les vrais gauchistes hélas dont on parlait au début de l'émission, il y a l'idée que Sylvester Stallone fait partie de ce peuple et qu'à allez, Richard Moreira en fait partie. Et ensuite, vous nous dites, mais en fait, c'est bon pour les... La première moitié, c'est bon pour les petits blancs d'aujourd'hui, mais la deuxième moitié, voilà, on est parti dans une société mondialisée, on est aux États-Unis, oui. Et donc, ce n'est plus le peuple, d'une certaine manière. De même que Stallone lui-même, voilà, n'est plus cet acteur raté, il est devenu ce millionnaire, producteur, réalisateur... qui produit de la culture populaire avec succès d'ailleurs, hein, contrairement à d'autres.
Oui, c'est un... Effectivement, ce que j'avais voulu montrer, alors là, c'était une volonté qui est venue en cours de route. Je me suis rendu compte qu'on passait du petit blanc, effectivement, c'est-à-dire la vie du peuple, à une population mondialisée, c'est-à-dire que l'on soit à Singapour, à Berlin ou à Paris ou à Montpellier, on est devant sa caisse automatique en train d'acheter ses articles tout seul et à devenir le client de son employé, l'employé de son client. La mondialisation, c'est ça finalement. Il n'y a plus de Richard Moreira dans le Béarn aujourd'hui, je le sais. Ça n'existe plus. Il n'y a même plus la montagne. Ce n'est plus qu'une station de ski industrielle, alors que elle existait. Et ça, tout ça, c'est mondialisé, oui. Ça, c'est une donnée importante. Il faut en tenir compte quand on écrit, quoi. On a changé, il y a eu une évolution. Pour le meilleur, pour le pire, pour tout ce que l'on veut.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Lafourcade, merci beaucoup Patrice Jean. Et évidemment, nous recommandons à tous les auditeurs de lire Underdog aux éditions Séguier. Voilà, de Bruno Marsan, admirable livre, 600 pages, 23,50 €, chaque centime sera bien dépensé. Merci beaucoup.
C'est donné.
C'est donné. Voilà.